J'aimerais vous parler cet après-midi de la question de la maturité. Maturité à la fois humaine et à la fois spirituelle. Pourquoi la question de la maturité? Mais vous faites vous-même le lien avec le discernement. C'est qu'au fond, nos immaturités entraînent bien souvent des parasites dans notre manière de prendre les décisions. Parce que qui dit discernement dit aussi prendre des décisions. L'objectif du discernement, c'est la décision. C'est pas simplement la connaissance. Et donc, il faut bien voir qu'en nous, en termes de maturité humaine et de maturité spirituelle, il y a un lien. Et il ne s'agit pas de résoudre au plan spirituel nos immaturités humaines. Il ne s'agit pas de reporter dans le domaine de la prière et de la vie de foi, ce qui est du domaine de la psychologie et qui est du domaine du travail sur soi et de la conversion personnelle. Donc c'est important dans cette étape où nous sommes d'unifier les deux. On a une unité, on n'est pas des schizophrènes, je suppose. Du coup, on n'est pas la vie spirituelle d'un côté, la vie humaine, psychologique de façon large, de l'autre côté. Il y a une unité entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut appeler maturité? Un peu des équivalents. Maturité, on peut donner comme nom aussi harmonie. On peut donner aussi comme nom perfection dans l'amour. Équilibre. Au fond, la maturité, pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet d'aimer davantage. Et que nos immaturités, que ce soit dans notre relation à Dieu ou dans notre relation à nous-mêmes ou aux autres, nos immaturités, ce sont des blocages dans l'amour, des manières d'aimer qui sont très partielles, qui ont besoin de grandir en tout cas. Et donc c'est intéressant de voir que cet autre nom de la maturité qui est une force intérieure qui permet d'aimer davantage, et bien sûr, à la suite du Christ, nous avons accès à une grâce bien plus grande que ce que peut notre propre psychologie bien souvent blessée. Mais cette maturité dans l'amour, au fond, va nous aider à poser des actes et comme le Christ lui-même en a posé. On a vu ce matin avec l'agonie, hein, à la fin, cette agonie où le Christ a livré un combat dans son humanité, dans sa psychologie, avec l'aide de Dieu, évidemment, mais comment est-ce qu'il a pu justement être tenté et comment au fond on a vu, bon, si besoin était de le dire, sa maturité, c'est-à-dire que il n'a pas et sa grandeur d'âme, c'est pratiquement synonyme, hein, grandeur d'âme, c'est-à-dire magnanimité. Magnanimité s'oppose à pusillanimité. Pusillanimité, c'est au contraire être très chiche dans le don de soi-même. La pusillanimité, c'est surtout, voilà, je reste dans mon petit coin, surtout que personne ne me voit, et puis peut-être sous couvert d'une fausse humilité, n'est-ce pas? Et voilà, je veux surtout qu'on m'oublie. Hein, alors que j'aurais quelque chose à apporter, mais parce que, on y reviendra demain, mais parce que j'ai peur du jugement des autres, parce que j'ai peur de l'échec, parce que, etc., eh bien, je ne vais pas alors que j'aurais quelque chose à apporter. La magnanimité est une signe de maturité, et on le voit dans le Christ, hein, déjà dans sa vie, lorsqu'il dit, hein, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Ça, c'est, on voit un acte humain posé par la personne du Christ, vraiment dans une maturité, dans une offrande de lui-même, mais j'allais dire que nous sommes bien loin de ces réalités, mais en même temps c'est une grande espérance pour nous de dire que le Christ nous montre dans notre humanité, hein, nous montre parce qu'il a pris la nature humaine, personne divine, il a pris la nature humaine, nous montre dans notre humanité que c'est possible d'aimer à ce point, avec la grâce de Dieu, jamais sans elle. Donc voilà, ce que c'est que la maturité, on pourra avoir d'autres synonymes, et vous pourrez en rajouter d'autres. C'est quoi les immaturités? Ben, il me semble qu'il y a deux formes d'immaturité, grosso modo. Il y a premièrement le fait de vouloir être au centre d'attention. d'être, de vouloir être un peu le nombril du monde, de vouloir, voilà, que ce soit par la séduction, garçon ou fille, le désir de vouloir plaire quelque part, vous voyez, le désir de, d'attirer l'attention qui fait que, voilà, au fond, on ne m'oublie pas, parce que sinon, si je n'attire pas l'attention, bah, du coup, je ne suis pas considéré, j'ai peur de ne pas exister, ou j'ai le sentiment de ne pas exister. Ça, c'est une forme d'immaturité qui est assez fréquente. Hein, des personnes qui sont... Et puis il y a une autre, au contraire, une autre manque de maturité qui est se considérer comme victime. C'est l'inverse un peu. C'est bon, je schématise, hein, parce qu'on ne peut pas tout détailler, bien sûr, mais c'est au fond la non-acceptation de ses propres dons, sentiment de victime, rejet de l'autre, rejet de soi-même. Voilà, je suis nul, je suis bon à rien, je suis bon à rien, etc., etc. Donc on voit bien entre celui qui est dans la victimisation de lui-même ou des autres et d'une certaine manière de s'enfermer dans une susceptibilité et qui, voilà, sentiment d'être mis de côté, et celui qui au contraire veut être au centre d'attention nombril du monde, bon, il y a tout des, évidemment un échelonnement formidable d'immaturité entre eux. Mais je trouve que c'est les deux pôles qui peuvent nous donner aussi des idées pour nous dans la dimension de la maturité, et que au fond c'est bien souvent dans nos immaturités viennent de ces deux actes-là, parfois même des deux sont parfois présentes. À la fois on a l'impression d'être rejeté, à la fois on veut voilà l'impression d'être victime, etc. Et à la fois on veut séduire, et à la fois voyez, notre cœur est très compliqué, comme dit le prophète Jérémie, l'homme cœur compliqué est malade. Hein, notre cœur est très compliqué. Donc voilà, donc on voit, comme par exemple, j'ai marqué là, par exemple, les personnes ultra susceptibles. Ouais, là, vous voyez là, n'appelons pas chez nous sensibilité ce que l'on appelle chez les autres susceptibilité. Vous voyez ? C'est-à-dire que chez nous, on dit, ah, moi je suis très sensible, etc. Il faut surtout me parler comme ci, il faut me parler comme ça, avec des égards, il faut mettre les formes, il faut. Mais lui ou elle, mais qu'est-ce qu'elle est susceptible alors? Oh là là là, mais c'est indénable, c'est on peut rien lui dire. On peut rien lui dire. Vous voyez, ça c'est des formes d'immaturité. Donc bon. Voilà. Alors, comment travailler un peu sur la maturité? Je me suis inspiré d'un document qui est dans le Concile Vatican II, qui s'appelle en latin Optatam Totius. Optatam, c'est, le latin, ça s'écrit comme ça se prononçait. Optatam, premier truc, totius, deuxième truc. Voilà, c'est pas un seul mot, c'est deux mots. De toute façon, peu importe, vous oublierez, ce n'est pas indispensable à votre vie spirituelle. C'est un document, donc c'est au numéro 11. C'est au numéro 11, c'est un document, sachez que, juste pour votre information, votre culture générale, les documents du magistère, qu'on appelle le magistère, comme c'est le cas du concile, ou des documents pontificaux ou autres, ou comme le catéchisme de l'église catholique, etc., fonctionnent par numéro. C'est-à-dire que quelle que soit l'édition dans laquelle ils sont imprimés, ben, du coup, on se retrouve par les numéros, et du coup, ça c'est le gros avantage quand même d'avoir un magistère, mais bon, ça c'est pas le sujet, mais c'est bon. Donc, Optatam Totius, numéro 11. Je lis la chose suivante d'Optatam Totius, justement, qui parle de la formation des séminaristes. La formation sacerdoce. C'est ça le sujet du document. Et au numéro 11, il est dit la chose suivante. Une formation sagement organisée doit donc cultiver chez les séminaristes également cette nécessaire maturité humaine dont les critères principaux, alors écoutez bien, sont une certaine stabilité de caractère, la capacité de prendre des décisions réfléchies et un jugement droit, quand on dit jugement, c'est appréciation, hein, c'est ça, un jugement droit sur les événements et les personnes. Donc je répète, c'est égalité de caractère, capacité de prendre des décisions réfléchies et un jugement droit sur les événements et les personnes. Donc on va traiter ces points successivement. Égalité de caractère. Qu'est-ce qu'on appelle l'égalité de caractère? L'égalité de caractère, c'est l'égalité d'esprit, l'égalité d'humeur. Qu'est-ce qui s'oppose à qu'est-ce que tu le formes, par exemple, d'immaturité par rapport à ça? C'est le côté cyclotimique, montagne russe. D'un côté, ben, je suis complètement exalté, magnifique, parce qu'il fait beau en Picardie, et que c'est vrai que c'est assez rare, donc du coup, je suis dans l'action de grâce. Et puis de l'autre côté, voilà, ben, il pleut, c'est gris, etc. Oui, ce côté montagne russe, qui fait que, qui n'est pas facile pour moi, mais peut-être encore moins facile pour les autres, qui vivent à mes côtés, qui est signe d'un manque d'égalité d'esprit, au fond. Hein, une égalité de caractère, c'est-à-dire que, bon, bien sûr que notre âme ne reste pas la même et notre caractère ne reste pas... Mais quand même d'essayer de travailler avec la grâce de Dieu, et puis travailler aussi avec des moyens humains, à une certaine égalité d'humeur, à une certaine stabilité dans la manière de ressentir les choses, et au niveau, c'est surtout au niveau émotionnel. De pas, sinon, il n'y aura pas de paix profonde. Bien souvent, nos manques de paix viennent au plan émotionnel d'un manque d'équilibre des émotions. C'est que les émotions prennent tellement... Les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises, encore une fois. Mais elles prennent tellement de place que là, pour le coup, ça parasite parfois le discernement, qu'elles nous entraînent soit dans la paix, ou en tout cas, elles peuvent nous entraîner dans une certaine... au contraire, dépression serait peut-être beaucoup dire, mais en tout cas tristesse, voilà. Et donc, je crois que c'est important de pas faire attention. Et donc, j'ai parlé un peu de l'imagination ce matin. Ça fait partie aussi de l'égalité d'esprit, parce que parfois l'imagination nous joue des tours. C'est ce qu'on appelle la folle du logis. Les maîtres spirituels l'appellent la folle du logis, l'imagination. Hein, c'est-à-dire que elle nous fait voir des choses qui ensuite nous font ressentir des sentiments, des émotions qui ne sont pas justes, qui ne collent pas au réel. Là, encore une fois, et vous m'entendrez plusieurs fois dire, adhérer au réel. Au fond, le réel, parce que ce réel-là, au plan humain, mais aussi au plan spirituel, eh bien, nous savons qu'il est dans les mains de Dieu. Et ce réel-là, il est bon. Hein, et Dieu vit que cela était bon. Et à propos de l'homme et de la femme, que cela était très bon. Donc c'est intéressant de savoir au fond que de voir où est-ce qu'on en est dans notre humanité par rapport à cette égalité d'esprit, ce qui nous aide à prendre un peu de distance par rapport à nos émotions qui parfois nous envahissent et nous parasitent. Alors on voit bien, c'est comme des vagues, hein, que ce soit des émotions d'angoisse, des émotions de tristesse, d'enthousiasme, de joie, etc. Et sous le coup de l'émotion, on prend des décisions, et ensuite, bah non, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ci, etc., etc. Parce qu'au fond, on n'a pas suffisamment laissé la place à l'intelligence. L'intelligence, c'est ce grand don de Dieu que nous avons, qui est cette capacité aussi de mettre une distance par rapport aux émotions et d'essayer de voir ce qui est positif, et ce qui est au positif dans le sens objectif, dans ce qui m'est proposé au discernement. Et ne pas simplement me laisser aller aux aléas de mes émotions et de mes sentiments pour prendre les décisions. Donc ça, c'est une première chose. Donc la maturité, ça veut dire que la maturité... passe aussi par une certaine relecture de ses manières de faire. Et on verra peut-être plus demain, passe aussi par un accompagnement. Parce que, justement, on peut sentir en soi-même, c'est important de vérifier, est-ce que, au fond, ce que je ressens, ma manière de faire, est-ce que c'est quelque chose qui est mûr, ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination, ou est-ce que c'est le fruit de ma sensibilité complètement fleurie et excessive, hein, vous voyez. Et donc du coup, c'est bien d'avoir un retour, un miroir. Et je dis ça aussi parce que à partir des partages que j'ai avec vous, je trouve que vous restez trop seul, beaucoup trop seul dans vos décisions. Et je trouve que la grâce de l'Église, c'est qu'on peut être accompagné. C'est que justement, on peut très bien ne pas être seul. Vous vous posez des tas de questions, mais d'autres se sont posés les mêmes questions il y a 100 ans, 500 ans, 1000 ans. Et on peut peut-être trouver des réponses aussi qui vous iront. Donc vous n'êtes pas les premiers à vous poser des questions. Vous n'êtes pas les premiers à découvrir, mais c'est quoi le sens de la vie, c'est quoi le bonheur, etc., etc. Donc je crois que c'est important de ne pas rester seul, parce que la grâce de l'Église, justement, cet accompagnement, et de bénéficier de tout ce qui, dans l'Église, depuis des siècles, à la fois par la vie des saints, et par le magistère de l'Église, et puis par la réflexion des théologiens, par la prière aussi de tous les chrétiens, a émergé, donne des clés aussi. Donc c'est restez pas seul par rapport à vos questionnements, parce qu'on voit bien que quand on est seul, on est un peu tous pareils, ben on finit par patiner, parce que comme on n'a personne qui nous fait miroir et qui nous dit, ben là, attends, là, est-ce que tu as réfléchi à ça, et qui nous, peut-être qui rajoute aux questions, mais qui nous fait prendre une voie différente de celle où on s'enfermait, en fait, on n'avait pas du tout d'issue, ça semblait une impasse. Et donc, comme on n'a pas ça, du coup, voilà, on peut très bien se décourager dans les questions, et voilà. Donc c'est important, c'était vérifié justement par rapport à cette égalité d'esprit. Ça veut dire aussi l'égalité d'esprit, renoncer aux caprices. Renoncer aux caprices, c'est-à-dire, je veux dire que j'ai marqué, la maturité se fait souvent dans la souffrance. C'est pas la souffrance pour la souffrance, vous avez bien compris. C'est simplement que, même si on le voit dans la vie du Christ, on ne peut pas parler de progression dans la maturité, parce que ça voudrait dire qu'il y a une immaturité avant ça. Mais l'amour fort et plaigné s'est fait dans ce temps de l'agonie, s'est manifesté en tout cas à ce moment-là. Mais on peut voir aussi que, d'une manière ou d'une autre, il y a passé par des moments parfois difficiles dans nos vies pour arriver à une plus grande stabilité d'humeur, une plus grande égalité d'humeur. Et quand je dis renoncer à nos caprices, on voit des personnes justement qui sont pas simplement des enfants, mais des personnes adultes qui sont très capricieuses, au fond très ils sont accro à quelque chose, etc. Un peu comme surtout dans cette culture du tout de suite, comme un gamin qui trépigne et qui n'accepte pas quelque part, ben soit d'attendre, soit que tout tard, ben ça ne viendra pas. Donc je crois que c'est important de dire aussi la personne mûre sait faire le deuil des choses auxquelles elle aurait pu aspirer légitimement, mais par les circonstances, elle n'y a pas accès, pour le moment, en tout cas. Et ça, je crois que c'est un des signes de la maturité, c'est justement cet accueil du réel. Ben, le réel aujourd'hui fait que, je suis dans un état de santé X, et que pendant cet état de santé, ben, il y a des choses qui me sont impossibles. Alors qu'est-ce que je crie, je hurle, je trépigne, qu'est-ce que je fais? Bon, ça c'est la santé, ça n'évolue pas beaucoup avec ça. Donc, la maturité, ce consisterait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments un peu de ras-le-bol, mais ça peut aussi dire d'accueillir dans l'humilité de la main du Seigneur cet état de fait, ces circonstances. Moi j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui dit « Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels ». Bah, les circonstances, moi, il y a 8 ou 9 mois, je me suis cassé la jambe, il y avait du verglas, et je dis, je vais pas sortir, c'est dans la cuisine de l'abbaye que je me suis cassé la jambe, heureusement que c'était pas en descendant à la cave, donc du coup, et puis ça se remet pas, puis c'est un peu la galère, j'accueille, je dis pas que c'est simple, mais j'essaye dans la mesure du possible d'accueillir ça. C'est une circonstance que j'ai pas choisie et qui se présente à moi. Les circonstances de famille, les circonstances professionnelles, est-ce que je sais lire dans ces circonstances la main du Seigneur dans un regard de foi et de dire que quelque part Dieu passe aussi par là pour me rejoindre? Ou est-ce que je suis dans la révolte qui peut être une étape, mais on ne peut pas rester dans la révolte et dans la colère toute sa vie, ça c'est impossible. Parce que ça, on n'avance absolument pas, et surtout, on ne discerne pas. C'est-à-dire, c'est là-dedans. Ça peut être une étape, et puis on sait bien qu'en nous, ça peut passer de la paix à la colère et à la violence, etc., et à nouveau à la paix. Mais bon, toujours est-il que c'est intéressant sa maturité, c'est cette capacité parfois de faire le deuil de choses auxquelles on aurait pu avoir accès légitimement, mais qui, pour l'instant, ne se présentent pas. Deuxième point, merci d'avoir mis de l'eau. Deuxième point, la prudence dans les décisions. La prudence, qu'est-ce que c'est que la prudence? La prudence est une vertu. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est une disposition permanente acquise par la répétition des actes. C'est-à-dire une vertu, par exemple, celui Alors, il y a les vertus morales, mais il n'y a pas que les vertus morales, les vertus théologales aussi. Bon, mais on peut dire un art, d'une certaine manière, c'est aussi, de ce point de vue-là, une vertu, le fait de, voilà, celui qui sait jouer au piano, etc., il a son art, donc il a dû répéter, et donc il a une vertu, c'est force, virtus, virtuti, c'est force en latin. Donc, il a répété, etc., et il a la possession de son art. Alors, ça, au plan artistique, on le comprend, mais au plan moral, il y a donc les vertus cardinales, comme les quatre points cardinaux, hein, la tempérance, la force, la justice et la prudence. La prudence, c'est pas appuyer sur le frein. Être prudent, c'est pas appuyer sur le frein, c'est pas ça. C'est mettre de la raison dans notre agir. C'est pas pareil. Appuyer sur le frein peut être très imprudent. Et on peut créer un carambolage. Hein, et donc, du coup, la prudence, c'est mettre de la... C'est savoir... ordonner les moyens aux fins et hiérarchiser les fins entre elles. La vertu de prudence. Il faut mettre de la raison dans notre agir. Hein, donc ça, c'est hiérarchiser, ordonner les moyens aux fins, aux finalités, aux buts, hein, et les hiérarchiser, ces fins ou ces buts, les hiérarchiser, c'est-à-dire mettre un ordre de priorité. Ça, c'est l'exercice de la vertu de prudence. Donc, c'est intéressant de voir que cette vertu de prudence, au fond, c'est vraiment la vertu qui donne aussi le juste milieu aux autres vertus, ça c'est un autre sujet, mais qui, d'une manière ou d'une autre, est la vertu de la décision, de la prise de décision. Parce que la vertu de la prudence vise à la décision. C'est vraiment quelque part qui est tout à fait connexe au discernement. Hein. Et on peut voir, d'abord, se poser la question... Est-ce que la fin que je choisis, c'est-à-dire la finalité, le but que je choisis, est un but bon, objectivement? Je vous l'ai dit au premier jour, on n'est pas là pour discerner entre le mal et le bien, parce que, quelque part, le mal n'est pas objet de discernement. Hein, on n'est pas là à savoir s'il faut attaquer la Banque de France ou pas, on n'est pas là pour savoir s'il faut se taper dessus ou pas, on n'est pas là... Non, on est là pour choisir entre le bien et le bien. Et c'est bien souvent c'est ce qui nous propose. Donc la vertu de prudence s'ordonne au bien. Donc c'est intéressant de dire, bon, est-ce que d'abord la finalité que je poursuis est une finalité objectivement bonne? Et deuxièmement, est-ce que les moyens que je poursuis pour atteindre la finalité, est-ce que ces moyens sont aussi bons? Hein, la fin ne justifie pas les moyens. Hein, il ne peut pas avoir un moyen mauvais pour une fin qui soit bonne. Parce que ça rend l'acte lui-même mauvais. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir voir où est-ce qu'on en est de ce côté-là. Voilà. Hiérarchiser les fins entre elles. Tout n'a pas le même ordre de priorité. Comme ça, quelqu'un qui donnait des cours de management ou d'organisation du travail dans l'entreprise, bon, c'est assez connu, et il a dit, voilà... je vous donne un seau, et dans ce seau, il faut mettre, il y a des gros cailloux, il y a du gravier, à côté, donc il y a le seau vide, gros cailloux, gravier, sable, eau. Tout peut rentrer. Je l'ai fait, comment est-ce que vous vous y prenez? Alors du coup, ils étaient là, tous les managers qui voulaient manager de façon magnifique, etc. Alors ils disent, on va mettre d'abord l'eau, et puis ensuite on va essayer de combler, etc. Puis ensuite, ils arrivaient, clac, les gros cailloux finalement rentraient pas. Ou d'autres mettaient le sable d'abord, et puis bon, voilà. Et en fait, bon, ce qui paraît assez l'évidence, mais ce que l'on ne fait pas beaucoup, c'est que c'est d'abord les gros cailloux, ensuite le gravier, ensuite le sable, ensuite l'eau. Ça veut dire quoi? C'est d'abord les priorités des gros cailloux. Dans nos vies, il n'y en a pas 46. Vraiment des priorités qui structurent ma vie. Vous savez, il y a trois choix à faire dans sa vie, qui conditionnent énormément d'autres choix. Il y a trois choix à faire. D'abord, le choix d'état de vie. L'état qu'on appelle état de vie, c'est-à-dire la vie matrimoniale ou la vie consacrée dans la vie religieuse ou le sacerdoce. Donc voilà, c'est l'état de vie. Quel style de vie je veux prendre? Ensuite, le choix de la vie professionnelle. Bien sûr, il peut y avoir des réorientations, il peut y avoir, etc., ça c'est possible. Mais convenez avec moi que si on a fait X années d'études pour une profession, d'aller, pourquoi, pour devenir médecin, tout d'un coup, on dit, bah, tiens, j'aimerais bien être plombier zingueur. Bon, les parents, ils vont peut-être faire un peu la tête d'abord, parce qu'on t'a payé déjà 8 années de médecine. Il faudrait peut-être leur faire... Bon, là, bien sûr qu'on peut changer, c'est bon... Mais ça, reconnaissez avec moi que la dimension professionnelle, quand même, guide beaucoup de choses à l'intérieur de votre vie. Et le dernier choix, mais qui est au fond le premier, le choix de Dieu. Le choix de Dieu dans sa vie. Et d'accueillir la volonté de Dieu. La foi est un choix aussi. C'est une grâce, mais c'est un choix. Est-ce que oui ou non, dans ma vie, je veux accueillir la volonté de Dieu? Ou est-ce que je reste aussi mature? On pourrait, on peut pas tout détailler, mais une immaturité là-dedans, c'est justement la personne qui, au niveau spirituel, papillonne. Vous voyez, c'est ce que Benoît XVI appelait son homélie au JMJ de Cologne, le bricolage spirituel. Vous voyez, une foi qui... Voilà, je prends un petit peu de ci, je prends un petit peu de ça, hop, il y a des choses... Ah ben non, l'Église catholique, il y a des choses qui me... Non, ça, dehors. Ah ben dans le bouddhisme, il y a des trucs sympas, allez hop, je vais prendre du bouddhisme, dans machin, etc. Bon. Le bricolage spirituel, il dit, la difficulté du bricolage spirituel, c'est qu'on se construit une foi, peut-être soi-même, mais cette foi, elle est très fragile. Parce que arrive la crise de foi, sur quoi je vais m'appuyer, si ce n'est sur ma propre cohérence. Sur ce que moi-même j'aurais construit. Et donc, comme moi-même je suis en crise, forcément, alors que le fait de rentrer dans, par exemple, dans la foi, nous qui sommes catholiques, de rentrer dans la foi de l'Église, on rentre dans la foi, on se laisse porter par la foi de l'Église. On n'est pas là. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Bon, mais il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Mais pas de panique, je veux dire, le monde ne s'est pas fait en un jour. Donc, voilà. Donc, ce que vous propose l'Église, rentrez dedans. Et ensuite, ben, vous ferez votre propre cheminement, mais c'est porté par quelque chose qui fait que même si vous avez des doutes, même si vous avez la fameuse crise de foi, ben, vous appuierez sur la foi de l'Église qui, elle, est séculaire. Et d'autres hommes, d'autres femmes qui eux-mêmes ont eu maille à partir aussi avec le doute et qui ont eu des difficultés, eh bien, les ont traversées et ont pu aussi découvrir dans cette foi de l'Église une vraie fécondité pour leur vie. Donc c'est important de nous-mêmes, aux immaturités par rapport à notre choix de Dieu. Puis, au plan professionnel, ça peut être pareil. On voit, on est assez attentif dans les CV, ceux qui recrutent, on voit ceux qui se papillonnent professionnellement. Vous voyez, ça c'est pas bon. Je veux dire, on a 6 mois par là. C'est là. Quand on est complètement déjanté, dans le sens complètement opposé comme orientation professionnelle. Le choix professionnel est le signe aussi d'une maturité. Hein, et puis, a fortiori, le choix de vie qui, lui, est plus définitif. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir ça, la vertu de prudence. Alors, donc la vertu de prudence, c'est vraiment celle qui nous aide à prendre les décisions. Plusieurs étapes dans la vertu de prudence. Premièrement, poser la question sur laquelle il faut discerner. Quel est le choix qui se présente à moi ? Sans établir les fruits de la délibération dans la question. Ça veut dire quoi ? Poser la question de façon assez objective, sans donner la réponse dans la question. Parce que parfois, la manière de se poser la question fait que, quelque part, déjà, on induit une réponse. Donc, c'est pas facile de poser un vrai choix et de poser les alternatives du choix. C'est pas si facile que ça, de façon plus objective. Hein. La difficulté dans le discernement, c'est qu'on soit ne sait pas poser les questions, soit qu'on se pose toutes les questions en même temps. On ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps. Là aussi, hein, il y a une hiérarchie dans les questions. Toutes ne sont pas au même niveau. Hein, et le discernement, en fond, c'est répondre à la question du pourquoi. Pourquoi telle décision, pourquoi telle autre. Et d'être attentif aussi à ce qui se passe en moi et des pensées qui me traversent. Quand je me pose des questions, Telle branche de l'alternative par rapport à telle autre ne résonne pas en moi de la même manière. Et ça, c'est assez ignatien, c'est-à-dire des jésuites qui ont aussi... c'est assez intéressant, il est très moderne aussi de ce point de vue-là, qui dit qu'il y a un aspect affectif dans le discernement. Il y a un aspect affectif, c'est-à-dire que telle proposition par rapport à telle autre, en moi, ne résonnera pas de la même manière. Par exemple, je n'arriverai pas à me projeter si je fais tel choix, si je fais tel choix de vie, bien le fait de me projeter, ben, pour moi, non, c'est un brouillard complet en face. Ou alors, si je fais un tel choix professionnel, au contraire, je sens qu'il y a de l'enthousiasme, etc. Donc, ça peut être intéressant de soi-même disposer et être attentif sans se laisser submerger, c'est là où il y a un équilibre difficile à trouver, mais sans se laisser submerger par ses émotions. Mais les émotions disent quelque chose. Hein, elles sont ni négatives ni positives. Elles disent quelque chose, les émotions. Hein, ben, dans l'amour, par exemple, forcément, il y a un aspect émotif. Hein, même, sauf pour Bismarck, qui lui-même n'était visiblement pas un grand émotif et qui le voulait dire à sa fiancée qu'il l'aimerait, il se mariait, pas non pas parce que il l'aimait, mais pour l'aimer. Donc, mais sinon, voilà, en général, c'est assez émotif. Donc, voilà. Ensuite, deuxième étape, pose la question. Deuxième étape, la réflexion, ou qu'on appelle aussi délibération. Délibération, c'est-à-dire que ne pas agir sans avoir réfléchi. C'est aussi le bon sens. Recueillir les données objectives que je peux avoir en ma possession pour une option ou l'autre. Hein, je suis appelé à tel métier ou j'ai possibilité de déménager dans telle ville. Encore une fois, le discernement, c'est pour tout. Bon, sauf à choisir entre un pain au raisin ou un pain au chocolat. Là, je crois qu'il faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Là, si vous en êtes là, c'est qu'il y a un vrai souci. Là, ça relève plus de mes compétences, quoi. Donc là. Recueillir les données objectives que j'ai et quelque part remplir un tableau listant ces données. Ça peut être aussi intéressant. Par écrit. De faire cette démarche par écrit, je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut la relire plusieurs temps après, quoi. Et avec un peu de recul et voir un peu pourquoi on a mis ça. Et le fait de donner, de présenter les données possibles pour chaque option clarifie les choses. Qu'est-ce que j'ai en ma possession comme donnée objective? Ça peut me faire dire aussi peut-être qu'il me faut plus d'informations. Plus d'informations pour accepter tel poste, par exemple, ou pour le laisser. Faire un déménagement dans un sens ou dans un autre. Plus d'informations pour me lancer dans une histoire amoureuse avec un garçon plutôt ou une fille plutôt qu'un autre, etc. Bon, il me faut plus d'informations. Quatrième point, le conseil. 1, 2, 3. Non, mais c'est... 1, oui, non, attends. 1, 2, non, c'est le 3. C'est pour voir si vous suiviez. Donc, troisième point, le conseil. Le conseil, demander conseil, ne pas agir sans demander conseil est important. Voilà. Et alors, ça, je crois que c'est bien souvent là où le bât blesse. Le conseil, bien souvent, et ça, c'est la présomption, être présomptueux, c'est-à-dire de penser savoir sans demander conseil... Qu'est-ce qu'il va m'apprendre ou qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, etc. Moi, je sais très bien les choses. Je demande pas conseil. Je m'autosuffis à moi-même. Je suis intelligent comme ça. Hein. Regardez mes diplômes, mon père. Ouais. Mais on peut se planter royalement aussi. Donc, le conseil, comme troisième étape, est intéressant parce que le conseil, que ce soit d'un conseil professionnel, Le conseil, que ce soit spirituel, l'accompagnement spirituel, peut-être on y reviendra, le conseil est déjà, c'est un acte d'humilité. C'est un acte d'humilité, et de fait, par acte d'humilité, ça éclaire notre intelligence, parce que ce qui obscurcit notre intelligence, c'est l'orgueil, très clairement. Ça l'aveugle. Hein. Donc c'est un acte d'humilité. Et puis, c'est un acte aussi où on apprend... de l'expérience d'un autre. On apprend de l'expérience d'un autre pour poser ses propres choix. Face à cette demande de conseil, plusieurs possibilités. Soit il y en a qui passent leur temps à demander conseil et qui vont de curé en curé demander, voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez. C'est un excès de conseil, d'une certaine manière. Bon, et donc du coup, à la fin, ils sont complètement perdus parce que forcément, chacun ayant une partie de l'histoire et sa propre sensibilité intérieure, on voit bien que se demander une multiplicité de conseils, bah, tue le conseil quelque part. Ceux qui ne demandent jamais conseil et qui agissent, ils posent la décision à prendre, ils réfléchissent, ils délibèrent, ils se font ce discours à délibérer, c'est se faire à soi-même un discours de pourquoi je dis et j'agis dans ce sens-là, mais ensuite directement ils passent à l'action, sans l'étape conseil. Et il y en a, au contraire, qui demandent conseil, à des personnes absolument pas formées pour ça. Hein, je demande conseil à ma coiffeuse sur ma vie spirituelle, par exemple. Je demande conseil à mon boucher si je dois dire oui à une proposition d'emploi. Ou à ma copine, mais qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On voit bien, on demande conseil à qui on peut, mais on se tourne vers sa copine, t'en penses quoi? Ben, bon, pff, non, t'en sais rien du tout. Elle est complètement elle est paumée comme vous, donc du coup, ça sert strictement à rien, le besoin des conseils. Je veux dire. Donc, bon, elle peut être de. Mais bon, demandez conseil à des personnes capables de vous conseiller en la matière. C'est pas demander conseil au premier venu dans la rue. Hein? Donc, bon, ça, c'est bien de le dire, mais ça va mieux en le disant. Donc, ça... Voilà, donc ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Donc. Et puis, il y a ceux qui demandent conseil, mais qui n'écoutent jamais les conseils. Ça, c'est encore une autre catégorie. Ou alors, de même pour la délibération, ceux qui délibèrent, qui se disent « Oui, voilà, ça y est, j'ai pris ma délibération. » Parce qu'après le conseil, il peut y avoir une retour à la délibération, qui est aussi intéressant, parce que le conseil n'est que de l'ordre du conseil, n'est pas de l'ordre qu'on appelle de l'imperium, c'est-à-dire de la prise de décision, de l'action. Hein. C'est l'action, c'est vous qui la prenez, c'est pas personne d'autre. Mais donc, du coup, après le conseil, il peut y avoir aussi une manière de délibération et on voit des personnes, c'est assez étonnant, qui délibèrent, qui se disent là, et au moment de passer à l'action, font complètement l'inverse de ce qu'ils avaient délibéré. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils perdent leurs moyens, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que, etc. Et ils se mettent dans des situations complètement impossibles. Donc c'est assez intéressant de dire, voilà, ce conseil, y a, dans le discernement, il y a des allers-retours, c'est pas linéaire, c'est pas, et puis je vais dire, même une décision, c'est important de la relire après, de dire j'ai pris telle décision, j'ai pris quelques mois après, mais qu'est-ce que j'en porte comme fruit, qu'est-ce que, et de la relire avec quelqu'un justement, de relire la décision avec une personne apte à m'aider à relire forcément, ça va sans dire. Donc, et puis ensuite la quatrième étape de la vertu de prudence, c'est l'action. L'action, parce que le discernement, la prudence vise à l'action. Une action peut être aussi d'être décidé de ne pas agir. Je m'explique. C'est-à-dire que si je me pose la question, par exemple, de déménager, si je me pose la question de changer de profession, ben, une décision peut être simplement de rester dans l'état où je suis actuellement. Et donc de ne pas prendre une nouvelle décision, mais il faut le poser ça comme une décision. Hein, Sœur Marie-Christine nous a bien expliqué dans son témoignage, au plan professionnel, bon, il y avait des tensions, etc., puis elle a dit, bon, ben, elle voulait partir, mais je vais quand même rester. Mais ça a été une décision, c'est pas une non-décision. C'était une décision de rester dans l'état et dans la profession et le lieu où elle était. Et puis pour ensuite, quand ça devient plus compliqué, ben, rebelote, rediscernement, et là, cette fois-ci, pour changer. Donc, c'est important de voir que, je dis ça parce qu'il peut y avoir des personnes, ce qu'on appelle les velléitaires. Velléitaire, c'est-à-dire celui qui ne passe jamais à l'action. Celui qui fait toujours la boucle, je pose la question, je délibère, je prends conseil, je repose la question, je délibère, je prends conseil, etc. À un moment donné, on joue à quoi là? Je veux dire, Voilà, c'est faut. Mais il y en a des velléitaires, ça existe. Donc du coup, celui qui ne passe jamais à l'élection, celui voilà, qui toujours, voilà, ça peut venir aussi du perfectionnisme, ça, le velléitaire, en fait, ça, c'est intéressant. Le perfectionniste a du mal à passer à l'action. Pourquoi? Parce que forcément, choisir, c'est renoncer. Et donc, il y a devant soi l'étendue des possibles. Et le fait de dire non à tous les possibles, sauf un, celui que je vais choisir, eh bien moi, comme perfectionniste, quelque part, ça me taquine, quoi. Ça ne m'est pas agréable, hein, parce qu'il y a quand même, il y a une forme de toute puissance aussi, d'avoir l'infini, je dis beaucoup, mais en tout cas, un certain nombre de possibles devant soi. Mais c'est un peu comme la personne qui est dans un rond-point, vous voyez, où il y a X sorties, et elle fait comme ça. Ah oui, j'ai toutes les sorties pour moi. Ah oui, ça c'est vrai. Mais pendant ce temps-là, tu vois les sorties, puis tu vois les gens, ils ont pris une sortie, puis ils avancent, puis tu refais, puis ils sont un petit peu plus loin, tu vois. Et puis toi, tu es toujours comme ça. Ah mais j'ai tous les possibles devant moi. Ouais. Mais tu vas nulle part aussi. Non, enfin. Bien. Alors, donc, alors, hop, attends, celui qui commence. Oui, alors. Il y a aussi dans le velléitaire qui prend pas, mais il y a celui qui commence et ne poursuit pas. Celui qui commence l'action et ne poursuit pas, qui ne va pas jusqu'au bout. Hein, notre père Lamy, un homme tout simple qu'il était, mais invité beaucoup ses religieux à aller jusqu'au bout de ce qu'ils font. Pas facile d'aller jusqu'au bout, parce qu'une fois qu'on a compris que ça fonctionnait comme ça, hop, on a envie de passer à autre chose. C'est dans la nature humaine. Mais de terminer, d'aller jusqu'au bout et de se tenir face à un travail que l'on nous a confié, c'est pas si simple que ça. Hein. Passer à l'action, ça veut dire accepter de dire non. Accepter de dire non, ça veut dire par rapport à telle proposition de soirée, par rapport à telle proposition, parfois très bien, etc., que j'ai devant moi, ben, je dis non parce que je sais où sont mes priorités. Je sais où sont mes priorités, je sais que j'ai mis mes gros cailloux. Et donc, je sais, j'ai pensé ça, et je dis non. Ça, cette décision-là, ben, c'est aussi une manière de passer à l'action que de dire non. Des personnes qui ont du mal à dire non, ce seront des personnes, au fond, qui vivront un peu par comment on peut appeler ça, par procuration, d'une certaine manière. C'est-à-dire des personnes qui, ce sera le dernier qui aura parlé, qui aura raison. Je dis pas non parce que sinon ça risque de déplaire. Je dis pas non sinon qu'est-ce que vont penser les autres, etc., etc. C'est une personne qui ne sait pas forcément où elle va. Et donc, une fois que l'on a pris la décision, il faut demander la vertu de force. La vertu de force, c'est de la pratiquer. Ça, c'est la pratique. C'est une question de pratique. Pratiquer la vertu, c'est se tenir à ce que l'on a décidé et avancer dans une jusqu'à temps qu'on refasse un discernement qui nous démontre qu'il faille éventuellement changer de voie, etc. Mais c'est pas à la première difficulté que je vais faire machine arrière. Et donc ça, on voit justement cette capacité de grandeur d'âme dont je vous ai parlé, cette capacité d'amour. Au fond, qui, au-delà des contradictions, au-delà même des critiques, au-delà parfois des échecs, des personnes qui ont su durer dans le temps et dans l'adversité, hein, la vertu de force, c'est à deux actes, la vertu de force, c'est tout d'abord aller au-devant de quelque chose de difficile, d'ardu, d'un bien ardu, c'est un bien, mais c'est un bien difficile à atteindre, comme par exemple les études. Avoir un diplôme d'études supérieures, c'est quelque chose d'ardu, donc ça demande de la force, ça demande la force dans le sens de la persévérance. Et puis la vertu de force consiste aussi à supporter quelque chose de difficile, qu'on n'a pas forcément choisi, comme ça peut être le cas d'une maladie, comme le cas d'une tension professionnelle, ou d'une tension matrimoniale, ou que sais-je. Ou familial. Je vais pas fuir, c'est ça la vertu de force. Je resterai là, même si c'est parfois difficile et que au fond, la vertu de force. Donc c'est aller à la rencontre d'un bien ardu. Premier acte, deuxième acte, soustinere. Donc c'est l'agrédire et le soustinere. C'est agrédire, c'est aller à la rencontre d'un bien ardu, et soustinere, c'est tenir dans la difficulté. Hein, tenir dans la difficulté. Voilà les étapes de la vertu de prudence. Ensuite, bonne appréciation des événements et des personnes. C'est le troisième point que nous donne Optatam Totius. Si vous voulez citer, vous pouvez le faire bien dans les dîners mondains. Vous citez Optatam Totius. Ça s'écrit comme ça se prononce. Le latin, c'est simple de ce côté-là. C'est comme l'espagnol. Troisième, donc première chose, égalité d'humeur, vous me suivez bien. Deuxième chose, prise de décision. Troisième chose que nous donne le document du Concile, c'est bonne appréciation des personnes et des événements. Bonne appréciation des personnes et des événements, c'est-à-dire que on a d'une manière ou d'une autre un jugement, je veux dire un toucher intérieur. C'est ce que Aristote, quand il travaille sur la personne humaine et décrit la personne humaine, il parle de la cogitative. Alors j'aimerais bien vous dire un peu quelques mots de la cogitative. La cogitative, au fond, c'est ça fait partie des sens internes. Il y a les cinq sens qui sont les sens externes et les sens internes avec l'imagination et la mémoire. Il y a la cogitative. C'est intéressant la cogitative parce que c'est ce toucher intérieur qui nous fait découvrir si c'est convenable ou pas. Convenable dans le sens non pas moral, mais est-ce que ça convient à la situation ou pas? Est-ce que, au fond, il y a une adéquation entre la circonstance particulière et la décision que je vais prendre? Alors, nous avons pu expérimenter ensemble quelque chose concernant la cogitative. Alors, c'était, je pense, hier à midi, pendant le repas, alors que nous étions plongés dans la contemplation de l'être en tant qu'être et de la Trinité bienheureuse, nous entendons dans les haut-parleurs miaou, miaou, miaou. Alors, au début, je regarde en dessous, je me pose la question, mais est-ce qu'il y a un quadrupède qui aurait été lâché dans la salle? Et donc, non, pas forcément. Donc, juste pour dire, c'est que, alors, heureusement, notre Frédéric, qui nous fait notre DJ pour la retraite, a tout de suite une bonne cogitative. Il a dit, en tant que tel, le duo des chats de Rossini ne pose pas de problèmes moraux contre la foi et les mœurs. Je veux dire, ça n'a pas d'incidence. Voilà, vous mettez ça. Voilà, c'est... mais simplement, dans une retraite, par exemple, on voit bien qu'il y a ça correspond. La cogitative se forme dans la famille. C'est intéressant. L'éducation, c'est beaucoup, on nous dit les valeurs, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup au plan intérieur ce qui convient de faire à tel moment ou ce qui ne convient pas de faire à tel moment. Encore une fois, c'est pas au plan moral. C'est pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Ça, c'est l'éclairage de la conscience. Mais ce qui convient de faire à tel moment ou pas. Et donc, tu trouves que c'est assez difficile à. Je prends un autre exemple, c'était dans une retraite il y a plusieurs années avec le père Emmanuel Gosset. Justement, à propos de la musique. La musique, par exemple, et surtout la liturgie, fait beaucoup appel à la cogitative et justement, qu'est-ce qui correspond? Il y a des choses qui sont de caractère liturgique. Par exemple, dans les chants, nous prenons des chants liturgiques, mais on ne prendrait jamais certains chants du carnet vert, qui pourtant appartient à la parole de Dieu, tout ce qui est le plus bien pensant, pour notre liturgie, parce que ça ne colle pas, ça ne convient pas à la liturgie. Vous voyez, il y a une question de convenance, il y a une question d'adaptation. Et je me rappelle avec le père Emmanuel Gosset, il m'avait fait la remarque, en fait, on n'avait pas un DJ aussi qualifié que cette fois-ci, et donc, du coup, c'était moi le DJ, du coup, j'avais mis ce que j'avais un peu en stock, c'est-à-dire de la liturgie. Alors il me dit, écoute, Pierre-Marie, on a déjà la liturgie avec les frères, mais ensuite à table, tu nous remets la liturgie. Moi, je me chature, elle fait m'aimer autre chose, mais de la guitare, mais autre chose. Mais bon, bref. Toujours est-il que, voilà, ça c'est la cogitative. C'est, et il avait raison, parce que il y avait quelque part, il y avait un, il y avait, bon, Encore une fois, ce n'était pas contre la foi et les mœurs, mais il y avait un manque d'adaptation, il y a peut-être un manque de préparation, d'anticipation, tout simplement, dans la manière d'appréhender la musique à mettre. Hein, et dans la liturgie, par exemple, fait beaucoup appel à la cogitative, justement, parce qu'on finit par avoir la foi, par exemple. Il y a un sentir, un toucher intérieur dans la foi qui fait qu'on sent que la personne qui parle, elle a vraiment... Soit on sent que c'est du chiquet, soit il y a les paroles et puis il y a la musique. Alors les paroles sont toutes très pieuses, mais la musique, c'est-à-dire la manière dont la personne prononce, nous dit, trouve un écho en nous qui nous fait dire cette personne-là, elle a une vraie expérience spirituelle ou pas, ou elle raconte une leçon apprise par cœur. Hein. Et de même que pour c'était André Frossard, je ne sais pas si vous connaissez André Frossard, qui a eu une conversion massive. C'était en entrant dans la cathédrale, non, c'est Notre-Dame, c'est, je crois. Bon, et donc il n'était pas baptisé, etc. Je crois, il me semble bien. Bon, et puis il demande le baptême. Et puis à un moment donné, dans la préparation au baptême, il disait à la personne qui elle était baptisée, formée pour enseigner des catéchumènes, c'est-à-dire des personnes qui se préparent comme adultes à recevoir le baptême, eh bien, elle lui disait, il disait oui, non, ce que vous dites là, c'est juste. C'est-à-dire qu'il avait reçu déjà une grâce de foi qui lui permettait de voir une convenance entre ce que disait la personne et ce que... Et la réalité, il y avait une vraie cogitative. Au niveau spirituel, il avait une bonne formation, un bon discernement, un bon, ce qu'on dirait le sens commun, le sixième sens, un peu pour faire bref. Donc ensuite, la question des... on n'en a toujours pas abordé, la question de la bonne appréciation des événements et des personnes. Ça peut parasiter notre discernement dans la mesure où il peut y avoir un événement ou une personne à laquelle ou auquel nous donnons trop d'importance. Hein, trop d'importance, c'est-à-dire, je pense, un événement, ça peut être un deuil, ça peut être aussi un égarement de notre part, un péché grave peut-être que l'on a pu commettre et du coup toute notre vie tourne autour de ça. Ça peut être quelque chose que l'on a vécu et du coup qui prend une importance absolument démesurée dans notre vie. Donc avoir une bonne appréciation des événements, c'est aussi donner aux événements leur juste place. Ça veut dire aussi ne pas vivre dans le passé. Parce que autant il faut tirer l'expérience du passé, autant vivre dans le passé et dans la nostalgie parasite le discernement. Parce qu'on veut toujours reproduire ce que l'on a vécu. De même au plan spirituel, vous avez certainement vécu des moments forts au plan spirituel, mais on veut essayer de les reproduire, puis ça marche jamais, parce qu'on n'est jamais dans les mêmes circonstances, jamais avec les mêmes gens, jamais dans les mêmes ambiances, etc. Du coup, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette manière de vouloir reproduire et de vivre dans le passé. Hein, ni donner aussi trop d'importance, toujours se projeter dans l'avenir. Vous voyez, toujours être dans les événements à venir, mais quelque part jamais dans le présent. Et donc, d'avoir une bonne appréciation des événements, c'est aussi vivre les événements comme présents et comme aussi me venant de la main du Seigneur. Et puis, par rapport aux personnes, eh bien, je trouve par rapport aux personnes, il peut y avoir aussi, je vous en ai parlé un peu ce matin, la question de l'emprise. Des personnes qui ont trop d'importance. La question, c'est la démesure là-dedans. Tant aux événements par rapport aux personnes, c'est la démesure. On donne trop d'importance à une personne, au jugement d'une personne, à la parole d'une personne, et qui fait que, comme d'une certaine manière, beaucoup de choses dans ma vie vont dépendre de ce qu'elle va dire ou pas dire. Ça, c'est pas de Dieu. Ça c'est clair que c'est de l'ordre de l'immaturité. Il y a une sorte de dépendance, un côté peut-être fusionnel encore, un enfantin, etc., avec de dépendance affective qui fait que il faut peut-être couper le cordon et puis soi-même aller son chemin. Ça veut pas dire s'opposer à la personne, ça veut dire tout simplement lui donner la juste place. Donc voilà, ces trois aspects-là que je voulais vous dire. Quelques points. Alors qu'est-ce qu'on fait si on coche toutes les cases? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on voit au niveau de la maturité qu'on a à grandir tant dans l'égalité d'esprit que la prise de décision, que une juste appréciation des événements et des personnes. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui peuvent aider à grandir. Premièrement, l'accompagnement, ne pas rester seul. Deuxièmement, commencer par ce qui vous est accessible. Il ne faut pas tout mettre en chantier en soi. Il ne s'agit pas de tout remettre à plat, sa vie, jusqu'à de la vie intra-utérine jusqu'aux fins dernières. Je veux dire, on peut pas réfléchir comme ça, c'est pas possible. Donc, prenez ce qui est à votre portée, prenez comme objet du discernement quelque chose de circonscrit, quelque chose sur lequel vous avez prise. Et puis, je crois aussi que le sacrement et la vie en Église, ainsi que la formation de façon générale, aide à la maturité. Parce que, au fond, la formation donne aussi des principes universels. Et parce qu'elle donne des principes universels, elle guide notre agir. Et je vois que vous êtes, vous et comme aussi vos prédécesseurs à votre place l'année dernière, et d'autres avant, mais en grande demande de formation. Et je vois aussi qu'il y a bien souvent un déséquilibre entre votre formation intellectuelle, et professionnelle, etc., où vous avez grandi, etc., etc., et votre formation spirituelle, ou de la connaissance de Dieu, du catéchisme, où c'est resté au niveau confirmation dans le meilleur des cas. Donc ce décalage entre votre compétence professionnelle et intellectuelle et votre connaissance du mystère de Dieu, parce que Dieu se laisse connaître en Jésus-Christ, bien fait que il y a toujours ce risque de jauger du haut de notre connaissance intellectuelle, de nos diplômes, etc., ce que l'on a reçu au catéchisme de confirmation quand on avait 15-16 ans. Et donc, du coup, la formation aide beaucoup à la maturité et aide à progresser et à grandir dans la vie de foi et dans la vie humaine, tout simplement. Je voulais vous donner peut-être un livre que moi j'aime bien, le père Pascal Hyde, I-D-E, Pascal Hyde, qui est un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui est docteur en médecine et docteur en théologie, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Construire sa personnalité ». Et je trouve que c'est accessible, c'est intéressant, justement. Il fait le passage des vertus, il fait tout, et de façon très ludique, en prenant des exemples dans le cinéma, dans les romans, etc., etc. C'est, je trouve ça très, très bien fait, en tout cas. C'est très agréable. Donc ça vous invite aussi à travailler. Et puis, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle « Les neuf portes de l'âme ». Les neuf portes de l'âme. Justement, où il étudie les personnalités avec aussi les profils spirituels qui vont avec, et aussi avec les failles qui vont avec. C'était tout ça très... L'énéagramme, les neuf portes de l'âme. Donc, voilà, c'est un peu pour...